Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 4 juillet 2023. Ici aux États-Unis, des millions de personnes célèbrent aujourd'hui la fête de l'indépendance. L'OTAN a reconduit pour un an le Norvégien Jens Stoltenberg à la tête de l'Alliance. Au Soudan, un avion de l'armée abattu lors d'affrontements à Khartoum. Au Cameroun, Amnesty International dénonce les crimes commis sur la population par l'armée, les séparatistes armés et les milices dans les régions anglophones. Soulagement au Sénégal après l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat.
C'est juste une situation d'apaisement parce qu'on en a vraiment besoin. Vu les émeutes qui se sont passées précédemment, je pense que le pays a besoin de paix, le pays a besoin de stabilité.
Les réactions à suivre dans la partie magazine avec le reportage de notre correspondant à Dakar. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Les Américains célèbrent ce mardi 4 juillet leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne proclamée en 1776. L'événement est marqué par des discours, des défilés, des rassemblements et des feux d'artifice. Yacouba Ouedraogo.
Cette année marque le 247e anniversaire de l'indépendance des Américains. C'est aussi le moment de se retrouver entre amis ou en famille. La journée est marquée par des défilés, des concerts, des barbecues, de la bière fraîche et bien sûr des feux d'artifice. Mais les médias rapportent que certaines villes ont opté pour des spectacles de drones alternatifs aux feux d'artifice traditionnels pour célébrer le 4 juillet, évoquant l'impact de la pyrotechnie traditionnelle sur l'environnement. La vice-présidente Kamala Harris et la première dame Jill Biden organisent un événement avec la National Education Association, suivi d'un barbecue avec des familles de militaires. Le président Joe Biden doit prononcer une allocution dans la soirée pour marquer l'événement avec une foule de familles de militaires, d'anciens combattants et des soignants à la Maison-Blanche. Le terrain du Capitole accueille un concert annuel qui sera télévisé. Les interprètes incluent Chicago Babyface, le National Symphony Orchestra et le US Army Band.
16 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, les membres de l'OTAN ont reconduit ce mardi, pour un an, le Norvégien Jens Stoltenberg à la tête de l'Alliance, faute d'avoir pu trouver un candidat pour lui succéder. Le point avec Eric Manirakiza.
La prolongation de Jens Stoltenberg, attendue depuis plusieurs semaines, a été entérinée lors d'une réunion des ambassadeurs des 31 pays membres au siège de l'organisation à Bruxelles. Elle signifie qu'il sera présent en juillet 2024 au sommet du 75e anniversaire de l'OTAN à Washington, après une décennie à la tête de l'organisation. S'il répétait qu'il ne cherchait pas à être prolongé, il n'avait jamais fermé la porte à une telle hypothèse. Plusieurs noms ont circulé ces derniers mois pour lui succéder, dont la première ministre danoise Mette Frederiksen et le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, mais aucun n'a finalement été retenu. Le président américain Joe Biden a salué le leadership constant de Jens Stoltenberg, qualifiant l'alliance militaire de plus forte, plus unie et déterminée que jamais. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé la sécurité en Europe et rebattu les cartes, poussant la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre le parapluie protecteur de l'OTAN. Le sort de la Suède se heurte encore aux objections de la Turquie. Des pourparlers sur ce dossier sont prévus jeudi à Bruxelles avec des représentants des deux pays.
8 personnes ont été blessées aujourd'hui à Tel Aviv lors d'une attaque à la voiture Bélier et à l'arme blanche, a annoncé la police israélienne. L'attaque a été revendiquée par le Hamas palestinien. L'assaillant, un jeune homme de 20 ans, originaire de Cisjordanie occupée, a été abattu par un civil, a déclaré la police. Selon le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, il était entré en Israël sans permis et n'était pas connu des services de sécurité. L'Égypte et la Turquie ont rétabli leurs pleines relations diplomatiques mardi, en nommant un ambassadeur dans leurs capitales respectives, ont annoncé leur ministère des Affaires étrangères. Les relations entre les deux pays étaient très dégradées depuis que le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a renversé en 2013 le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, mouvement idéologiquement proche du parti du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux pays soutiennent aussi les deux camps rivaux qui s'affrontent militairement depuis pratiquement une décennie en Libye.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sénégal, une pluie de réactions à l'international ont salué la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé sur Twitter que cette décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, salue une décision sage et salutaire. Le chef de l'État de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, président en exercice de l'organisation de la CEDEAO, salue avec fierté sa décision courageuse de grand homme d'État. Paris a aussi salué la décision du chef de l'État sénégalais en jugeant que le Sénégal démontre à nouveau la solidité de sa longue tradition démocratique, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. De violents combats ont éclaté à Omdurman et dans d'autres villes du Soudan. L'armée tente de couper les voies d'approvisionnement utilisées par les paramilitaires pour acheminer des renforts. Alexandrine Olognon.
Les affrontements d'aujourd'hui à Omdurman sont les plus violents depuis des semaines, selon des habitants. L'armée tente de gagner du terrain tout en repoussant une attaque des forces de soutien rapide contre une base de la police. Un avion de chasse a été abattu dans la capitale soudanaise Khartoum, où des affrontements et des tirs d'artillerie ont visé plusieurs quartiers. Le conflit entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide entraîne des affrontements quotidiens dans la capitale, déclenchant des tueries à motivation ethnique dans la région occidentale du Darfour. Dans un geste qui pourrait aggraver le conflit dans l'ouest du Soudan, des chefs tribaux du sud du Darfour ont déclaré lundi leur allégeance au FAR. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont négocié plusieurs accords de cessez-le-feu lors des pourparlers de Jeddah qui ont été suspendus le mois dernier après que les deux parties ont violé les trêves. Selon l'ONU, le conflit menace d'entraîner le Soudan dans une guerre civile de longue durée.
Les civils des régions anglophones du Cameroun sont régulièrement victimes d'atrocités, dont des exécutions, tortures et viols commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés. Telle est l'alarme qu'Amnesty International a lancée ce mardi dans un rapport qui se base sur les témoignages de plus de 100 victimes, de responsables d'ONG locales et de journalistes. Le point avec Nani Talani.
Dans un rapport, Amnesty répertorie des exécutions extrajudiciaires, des homicides de civils, dont des femmes et des enfants, des tortures, des viols et autres violences sexuelles perpétrées par les deux camps, des atrocités récurrentes relevant de graves violations des droits humains. Parmi les cibles des séparatistes qui se livrent également à des kidnappings contre rançon figurent des civils qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé et particulièrement ceux de l'ethnie Peul d'Embororo, soutient l'ONG, tout en accusant aussi des milices Mororo d'épauler les militaires dans ces attaques. Amnesty accuse également de violation des droits humains les autorités politiques et judiciaires, notamment en faisant emprisonner arbitrairement des civils, des journalistes, des responsables de la société civile et en les faisant juger par des tribunaux militaires pour des faits liés à du terrorisme. L'ONG dit qu'elle s'inquiète du fait que des partenaires internationaux du Cameroun ont continué de coopérer avec le pays sur le plan militaire, y compris en fournissant des armes et du matériel militaire qui risque d'être utilisé par les forces armées, les milices ou les séparatistes armés pour commettre des exactions.
Le nombre de personnes souffrant de malnutrition sévère au Tigré, région dévastée par la guerre du nord de l'Éthiopie, a fortement augmenté et la situation devrait empirer. Selon l'ONU, dans un rapport diffusé lundi, OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU, estime que quelque 8,8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le nord de l'Éthiopie, sans compter les millions d'autres affectés par la sécheresse dans le sud-est du pays. L'ancien gendarme rwandais Philippe Ategué-Kimana, 66 ans, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda, va faire appel de sa condamnation. Philippe est persuadé que le procès permettra, à l'issue d'un processus équitable, d'établir son innocence selon ses avocats. Et puis la Côte d'Ivoire a perdu aujourd'hui, lundi, l'un de ses plus grands constitutionnalistes, le professeur Francis Vaudier, l'universitaire et ancien président du Conseil constitutionnel de 2011 à 2015. Cet été, à l'âge de 87 ans, Francis Vanga Vaudier était aussi une figure de proue de la politique ivoirienne. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
La société publique marocaine OCP a fait savoir qu'elle commencera la production dans son usine d'engrais au Nigeria fin 2026 et lancera la même année une étape de pré-production dans son usine en Éthiopie. La société a promis d'allouer 4 millions de tonnes de production d'engrais au marché africain où elle a mis en place des unités de mélange et cartographié aussi la composition des sols sur 30 millions d'hectares pour aider à produire des engrais personnalisés. Le Ghana a conclu un accord avec des banques pour restructurer 1,36 milliard de dollars d'obligations, ont déclaré trois sources proches des négociations. Accra cherche de nouvelles conditions pour la restructuration de sa dette intérieure afin de pouvoir respecter l'échéance du FMI et concentrer son attention sur les négociations avec les créanciers extérieurs afin de pouvoir se qualifier pour la prochaine tranche d'un prêt de 3 milliards de dollars du FMI. Pour terminer, la Russie a annoncé lundi une réduction de ses exportations de pétrole brut de 500 000 barils par jour au mois d'août pour, dit-elle, équilibrer le marché. Cette annonce intervient juste après celle de l'extension de la réduction de production de pétrole d'un million de barils par jour par l'Arabie Saoudite, alliée de la Russie au sein de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires. De telles mesures visent à réduire l'offre de pétrole sur les marchés afin de stimuler les prix.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans se disputent ce soir au Maroc.
Oui, la première demi-finale oppose l'Égypte à la Guinée. Juste après, à 20h temps universel, le pays hôte, le Maroc, fait face au Mali. Pour les sélectionneurs marocains, le début du match sera déterminant.
C'est une équipe qui a beaucoup de force offensive. Je pense que le début de match va être très important. Alors, on doit bien entamer le match, comme on a fait les trois premiers matchs, à part peut-être le premier match qu'on n'a pas vraiment très bien commencé, mais on a bien fini. Ça, c'est le plus important. Le début de match va faire la différence. Et pour nous, comme on a toujours fait, on a marqué 8 buts dans les trois matchs. On veut marquer des buts, on veut faire plaisir au public, mais on veut d'abord gagner les matchs. Ça, c'est le plus important.
Issam Charaï, sélectionneur du Maroc au micro d'Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca. Les deux qualifiés pour la finale arracheront du même coup leur ticket pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Au chapitre des transferts, Geoffrey Kondogbia rejoint l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille a annoncé la signature du capitaine de l'équipe nationale centrafricaine en provenance de l'Atlético Madrid. Geoffrey Kondogbia retrouve à l'OM son ancien entraîneur à Valence, Marcelino, avec qui il a notamment remporté la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019. Champion d'Espagne en 2021 avec l'Atlético, le milieu défensif a disputé 20 matchs en Liga la saison dernière, avec un temps de jeu réduit en 2023 par rapport à la première moitié d'exercice. Pour notre consultant à Libreville, Jules Valentin Ngoué, ce transfert va permettre à Kondogbia de garder le même niveau.
C'est une bonne affaire et surtout le joueur va garder son haut niveau. Les deux clubs de départ et d'arrivée étant des clubs très ambitieux sur la scène européenne. Mais en plus à Marseille, il aura plus de chances d'être totalement titulaire. C'est un joueur indispensable au l'épanouissement du football dans son pays. On lui souhaite bonne chance.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif à Libreville.
Steven Guerra rejoint le championnat saoudien.
L'ancien capitaine emblématique de Liverpool a été officialisé comme nouvel entraîneur principal d'Al Ittihad. Le technicien anglais de 43 ans était sans club depuis son limogeage par Aston Villa en octobre. Al Ittihad a terminé 7e sur 16 clubs de la Saudi Pro League la saison dernière. Depuis qu'il a pris sa retraite après une brillante carrière de joueur, Gerrard a connu du succès lors de son mandat à la tête des Glasgow Rangers, où il a remporté le seul titre de champion du club au cours des 12 dernières années, en 2020-2021. Il rejoint en Arabie Saoudite d'autres managers de renom comme le portugais Nuno Espírito Santo, ancien coach de Tottenham, sacré champion avec Al Ittihad, ou son compatriote José Russus, ex-coach de Benfica, de retour à Al Hilal.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Soulagement et même fierté dominaient aujourd'hui au Sénégal, au lendemain de la décision du président Macky Sall de renoncer à un troisième mandat, décrispant un climat politique très tendu. L'opposition a toutefois nuancé ce concert de louanges, soulignant le rôle de toutes les vies sacrifiées dans des manifestations pour la défense de la démocratie et réclamant désormais des élections inclusives. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La question du troisième mandat a longtemps cristallisé les tensions politiques et sociales, et la décision de Macky Sall d'y renoncer est un geste fort et respectable. C'est l'avis de David Djedjou, un prestataire de service âgé d'une vingtaine d'années.
Bon, je pense que c'est juste une situation d'apaisement, parce qu'on en a vraiment besoin, vu les émeutes qui se sont passées précédemment. Je pense que le pays a besoin de paix, le pays a besoin de stabilité. Et dans cette optique, bon, personnellement, je le félicite pour cet acte de démocratie qu'il a eu à poser envers le pays, en fait.
Pour Fode Diawara, âgé de 42 ans et mécanicien de profession, le geste mérite le respect, mais pas de félicitations particulières, car c'est juste le respect de la parole donnée.
Il l'avait dit, il l'a fait, c'est terminé, et c'est ce que je retiens. Je pense que son acte va ramener la paix et une certaine cohésion sociale. Cela est évident, assujetti au traitement qui sera réservé à l'opposant Ousmane Sonko, car s'il est arrêté, le pays pourrait de nouveau connaître des troubles, mais l'essentiel à retenir est la position de Macky Sall, qui, il faut l'avouer, a surpris énormément de monde, y compris ceux de son camp.
Son avis est partagé par Mbarik Sen, un chauffeur de taxi âgé de 36 ans.
Ce désistement de Macky est une vraie surprise. C'est inattendu, car tout le monde s'attendait à ce qu'il se déclare candidat, mais il ne l'a pas fait. Et honnêtement, je pense qu'il le fait pour avoir les coudées franches et empêcher Ousmane Sonko d'être candidat aussi. Mais il doit savoir que les choses vont se calmer s'il laisse Ousmane Sonko tranquille. Dans le cas contraire, les malheureux événements risquent de se reproduire.
Des événements que le président Macky Sall a fermement condamnés hier avant de promettre des poursuites contre les auteurs et les commanditaires d'actes qu'il qualifie d'insurrectionnels. Un passage de son discours qui fait craindre à beaucoup une arrestation de Ousmane Sonko et une nouvelle vague de violence. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le sommet de Paris qui a réuni la semaine dernière une vingtaine de dirigeants africains, le premier ministre chinois et le président brésilien ont soutenu la nécessité de réformer les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le FMI en vue de les rendre plus efficaces et plus équitables. Le président français Emmanuel Macron, hôte de ce forum, a parlé de consensus complet. Quels pourraient être les avantages pour les pays africains? Eric Manirakiza a joint à Dakar Ibrahima Aïdara, directeur exécutif d'Ossiwa.
Je pense que c'est vraiment véritablement la voie à suivre. Voyez-vous, on ne peut pas, le Kenya et la Tanzanie ne peuvent pas commercer entre eux avec une monnaie étrangère. Donc je pense que pour moi, c'est la voie à suivre, et d'ailleurs pour tous les pays africains, si on veut maximiser les bénéfices même de l'accord commercial continental. Ça ne fait pas de sens, ça ne fait qu'accroître le coût du commerce entre nous et nous rendre encore moins concurrentiels par rapport au reste du monde.
Dans ce sommet, le président français notamment a dit qu'il y a eu un consensus complet pour réformer les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en vue de les rendre plus efficaces, plus équitables et mieux adaptées au monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Moi, je pense que c'est une très bonne idée, quoique je ne crois pas tellement à sa réalisation. Depuis l'après-guerre, donc ces institutions sont là avec comme objectif de soutenir le développement dans les pays qui en ont besoin. Malheureusement, pour ce qui nous concerne en Afrique, très peu de pays, pour ne pas dire qu'un pays, n'a pu se développer avec l'appui de ces institutions de Bretton Woods. Et on sait que les rapports avec ces institutions-là, les types de financement, les modalités, les conditionnalités, tout ça là n'est pas nécessairement favorable à la croissance soutenable et inclusive dont nous réclamons de tous nos voeux. Donc je pense que réformer ces institutions, d'abord pour plus d'efficacité, ça c'est un grand point, un gros problème, pour plus d'efficacité, parce que si on retrace leur intervention dans le continent, très peu de pays ou aucun pays n'a encore émergé avec l'appui de ces groupes. Donc il y a une question d'efficacité qui se pose. Réformer ces institutions pour plus d'équité est aussi un point sur lequel je pense que ça mérite d'être posé et d'en débattre. Donc moi je pense que c'est une nécessité pour le continent. Maintenant, je doute de sa réalisation parce que de toute façon, c'est des questions de rapport de force et je ne suis pas sûr que les grands pays vont lâcher pour, disons, avoir cet équilibre-là économique qu'on est en train d'annoncer dans les discours.
Quel type de réforme serait-elle utile à l'Afrique, aux pays africains?
D'abord, il faut avoir des mécanismes où on peut accéder à des financements structurants qui soient plus accessibles et à moindre coût. Aussi longtemps qu'on n'a pas ce mécanisme-là qui nous impose avec de longues procédures, avec des coûts élevés, mais aussi avec des conditionnalités qui ne sont pas adaptées à nos économies. Ça ne peut que déstructurer nos économies et au finish, on va se maintenir structurellement dans notre site de la pauvreté et de l'endettement.
C'était Ibrahima Aïdara, directeur exécutif de CIWA, joint à Dakar.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Protection de l'enfance en Côte d'Ivoire, l'association volontaire pour le service international a organisé une journée de sensibilisation dans le village de Nakaa, à environ 25 km de Korogo, dans le nord du pays. L'objectif était de sensibiliser les femmes de ce village sur le mariage forcé, les maltraitances et aux types d'abus subis par les enfants. Le reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Non-respect des droits des enfants, pratique du mariage forcé, des enfants victimes de maltraitance et bien d'autres abus. Qu'en pense le citoyen lambda?
Moi, je ne suis pas d'accord pour ça parce que arranger un mariage là, arriver là-bas, ça peut poser des problèmes, tout ça.
Je pense que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, venir proposer ou bien forcer quelqu'un à marier une personne sans son consentement.
Pour ça, bon, je ne serai pas d'avis.
C'est toujours risqué.
Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cela. Ce sera la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un.
En cas de violation ou d'atteinte ou de maltraitance, quels sont les recours qui s'offrent à elle?
Je dirais plutôt que c'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, mais nous sommes sur la bonne voie.
Et c'est pour continuer le travail mené par le gouvernement ivoirien que l'association des volontaires pour le service international a pris le relais sur le terrain auprès des communautés villageoises de Nakaa, non loin de Korogo. Franck Fieni, coordonnateur régional de l'ONG, explique.
Si tu mets ton enfant à l'école, et puis l'enfant entend de réussir à l'école, et puis on dit on l'enlève à l'école, on dit non, va te marier avec un vieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que si tu prends ton enfant, il va dans une autre école, tu donnes à quelqu'un d'autre, et puis on lui donne pas à manger pendant 3 ou 4 jours, est-ce que c'est bon? Si les mamans font ça, elles apprennent que quelqu'un fait ça aussi, elles doivent parler, elles doivent dénoncer, elles doivent dire que c'est pas bon.
Et les femmes disent avoir compris le message. Yo Wanja est leur porte-parole.
Tout ce que nous on a compris ici et puis voir aussi, nous allons dire aux parents de ne pas faire mariage forcé avec les enfants. Il ne faut pas donner la fille qui n'a pas l'âge du garçon. Si l'enfant n'est pas bien traité à la maison, l'enfant ne pourra pas bien travailler à l'école.
Caroline Yao est conseillère sociale au complexe socio-éducatif de Korogo.
Quand on parle des victimes de traite, elles sont en nombre considérable. Et surtout, ce sont elles qui sont porteuses de vie, ce sont elles qui ont les enfants. Et la plupart du temps, quand leurs enfants sont touchés, on se dit qu'elles sont également touchées par ce phénomène.
Protéger les enfants et les femmes sera le fruit d'un long et laborieux processus pour faire tomber les barrières, les préjugés et les traditions qui, Parfois, on la peau dure. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Aujourd'hui, les Américains célèbrent le 4 juillet, la fête de l'indépendance. Cette journée commémore la déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1776. Elle symbolise la liberté, l'unité et la fierté nationale. Pour certains vétérans américains, cette fête de l'indépendance est spéciale. Ils peuvent la célébrer sur le sol américain dans le cadre d'une initiative de l'administration Biden lancée en 2021 pour aider à rapatrier les vétérans non citoyens qui ont été expulsés après avoir eu des ennuis avec la justice. C'est un reportage de Jenny Adulot depuis la Californie, le récit avec Michel Joseph.
Laura Meza a servi dans les forces américaines en Irak en 2003. Aux prises avec le syndrome de stress post-traumatique, à son retour, elle s'est tournée vers la consommation de drogue illégale. Arrêtée, elle a été expulsée vers son pays d'origine, le Costa Rica. En ce 4 juillet, elle est de retour aux États-Unis pour la première fois depuis 14 ans dans le cadre de l'initiative de l'administration Biden en faveur des militaires et vétérans immigrés qui permet à certains vétérans expulsés, suite avec des démêlés avec la justice, de revenir aux États-Unis et de recommencer leur vie.
On part à la guerre, on voit des choses auxquelles on ne s'attend pas. On ressent des choses auxquelles on ne s'attend pas. On voit tellement de gens blessés en même temps. C'est une chose de voir une ou deux personnes blessées, mais c'en est une autre de voir des centaines de personnes blessées en même temps. Voir des êtres humains où l'on a l'impression que tout est hors de contrôle. On ne peut rien faire. Et il y a tellement de personnes blessées, qui saignent, qui sont blessées, qui n'ont plus de membres, plus de bras, plus de jambes. Et vous connaissez la vie de ces gens. Et la vie de tout le monde sera affectée à jamais. Après cela, j'ai commencé à me sentir en colère, bouleversée, amère.
Hector Barajas travaille pour une organisation qui aide les vétérans qui ont été expulsés.
Des vétérans ont été expulsés depuis 1996. Cela fait plus de 20 ans et cela concerne 4 administrations. Et c'est la première administration qui a décidé de faire quelque chose.
Barajas a été libéré avec les honneurs après 6 ans dans l'armée américaine et a ensuite été impliqué dans une fusillade qui, selon lui, l'a envoyé en prison pendant 2 ans avant d'être expulsé vers le Mexique. Il a finalement été gracié et devenu citoyen américain et a commencé à défendre les intérêts d'autres vétérans expulsés.
Je pense qu'une personne qui a servi, qui a mis sa vie en danger, ne devrait pas être expulsée. J'ai enterré beaucoup de gens et à la fin de la journée, ils seront enterrés aux États-Unis comme n'importe quel autre vétéran et les mêmes mots leur seront adressés qu'à n'importe quel autre vétéran. Merci pour votre pays, une nation reconnaissante, et cela me semble tout simplement injuste.
Ce jour-là, il traverse la frontière jusqu'à Tijuana, où son groupe gère une maison d'accueil pour les anciens combattants américains expulsés qui attendent de rentrer chez eux. José Velasco est l'un d'entre eux.
J'ai 6 arrière-petits-enfants aux États-Unis. J'ai des petits-enfants. J'ai des enfants. Ma famille est aux États-Unis. C'est la raison principale. Mais il y a aussi d'autres raisons pour que je puisse réclamer mes avantages.
Les vétérans comme Velasco peuvent réclamer leurs avantages militaires en dehors du pays, mais ne sont pas éligibles à la sécurité sociale s'ils ne sont pas résidents permanents ou citoyens américains. Meza, qui a mis 14 ans pour revenir aux États-Unis, espère que d'autres vétérans pourront, comme elle, bientôt revenir chez eux.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute.